Bienvenue à vous, chers amateurs de belles pierres et amoureux du patrimoine. Cet audioguide, réalisé par la communauté de communes Campagne de Caux, en partenariat avec la radio Résonance, va vous permettre de découvrir l'histoire et l'architecture de l'église Saint-Aubin de Virville. Grâce à lui, laissez-vous guider dans 1100 ans d'histoire. Pour commencer, je vous propose de vous trouver un petit coin tranquille pour écouter les premières explications. À la fin du commentaire, je vous indiquerai quelle est la place idéale pour lancer la piste suivante.
Tout d'abord, dites-nous pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui à l'église de Virville.
Eh bien, parce que l'église de Virville est une star à sa façon. Elle joue un rôle dans un livre. Sauriez-vous dire lequel ? Petit indice, il a été écrit par un auteur normand très célèbre. Allez, je vous aide. Il s'agit de la maison Tellier de Guy de Maupassant. En effet, Madame a son frère qui vit à Virville et elle s'y rend, avec toute la maison en grand apparat, pour la communion de sa nièce, Constance Rivet, qui est aussi sa filleule. Dans l'église, Rosa, se souvenant de sa propre première communion, ne peut retenir son émotion et ses pleurs deviennent communicatifs. Le curé, troublé par ce souffle d'émotion, croit au miracle et remercie ces dames de leur pieuse présence. Découvrons ce qu'écrit Maupassant à propos de l'église.
C'était un tout petit village que traversait une grande route. Une dizaine de maisons rangées le long de cette voie unique abritaient les commerçants de l'endroit, le boucher, l'épicier, le menuisier, le cafetier, le savetier et le boulanger. L'église, au bout de cette sorte de rue, était entourée d'un étroit cimetière, et quatre tilleuls démesurés, plantés devant son portail, l'ombrageaient tout entière. Elle était bâtie en silex taillé, sans aucun style, et coiffée d'un clocher d'ardoise. Après elle, la campagne recommençait, coupée çà et là de bouquets d'arbres cachant les fermes. Mais pourquoi Guy de Maupassant estime-t-il aussi mal l'église de Virville, quand même ? Il écrit qu'elle n'a aucun style.
Pour le comprendre, il faut remonter les années et se replacer dans le contexte de l'époque. Le terme « roman » a été forgé en 1818 par l'archéologue normand Charles du Hérissier de Gerville, qui qualifie de langue romane une version appauvrie du latin. Ce terme est repris par un autre normand, Arcisse de Caumont, lors de son travail d'inventaire de l'architecture médiévale. Caumont constate que deux styles s'opposent à l'époque médiévale. Le plus ancien, avec ses arcs en plâtre et sa décoration, s'inspire clairement de l'Antiquité. Ce style lui apparaît donc comme une continuation maladroite de l'art de bâtir des Romains. Faisant un parallèle avec la langue romane, il nomme cet art de bâtir l'architecture romane. Ce terme entre dans le langage courant en 1835. Par conséquent, l'épithète « roman » est tout d'abord péjorative. Ce n'est pas étonnant, dès lors, que Maupassant, qui écrit « La maison Tellier » avant 1890, soit si négatif à propos de l'église de Virville. Cette opinion a depuis été largement révisée. Le classement en 1913 de l'église au titre des monuments historiques en atteste.
Justement, qu'est-ce qui a bien pu faire basculer l'opinion générale ?
À n'en pas douter, le travail des historiens et des passionnés d'architecture. Leurs travaux ont montré que cette architecture était très riche, avec des expressions diverses selon les régions. L'art roman normand est ainsi différent de celui bourguignon ou auvergnat. Et surtout, les historiens ont souligné que cet art était à mettre en relation avec un contexte d'essor politique, économique et religieux, exceptionnel au Moyen-Âge, notamment en Normandie.
Pourquoi la Normandie particulièrement ? Cette région était différente des autres au Moyen-Âge ?
Oui et non. C'est que la Normandie que nous connaissons n'existait pas à l'époque. Le découpage de la France en régions non plus, d'ailleurs. Le duché de Normandie fait en effet partie, comme l'Aquitaine, la Flandre ou la Catalogne, de ces territoires indépendants qui émergent au milieu du Moyen-Âge, suite à l'affaiblissement du pouvoir royal. Faisons ensemble un bond dans le temps de 1100 ans. Depuis quelques dizaines d'années déjà, les territoires autour de la Seine sont victimes des raids vikings qui régulièrement viennent piller, voler et détruire les villes, les châteaux, les abbayes, les monastères. La situation économique est difficile. Au début du Xe siècle, le roi des Francs, Charles le Simple, est totalement débordé par cette situation. Il trouvera une solution insolite, confier le territoire le plus sensible, la Basse-Seine, qui correspond à l'estuaire de la Seine, à un chef viking nommé Rollon. Celui-ci en devient comte. Dans son pays, il est jarl, ce qui est à peu près l'équivalent. Il a la libre administration de son comté, à charge pour lui de le défendre contre les raids. C'est le traité de Saint-Clair-sur-Epte, en 911, qui crée le comté de Normandie. Le duché viendra plus tard. Cette solution est un succès. Rollon et son héritier, Guillaume Longue-Épée, se révèlent d'excellents administrateurs et défenseurs. La situation se stabilise. Les raids sont stoppés, à tel point que Raoul, héritier de Charles le Simple à la tête des Francs, va progressivement céder les territoires supplémentaires au comte de Normandie. Il va jusqu'à lui confier en 933 l'Avranchin, le territoire le plus au sud de la Normandie actuelle, où se trouve le Mont-Saint-Michel, concédé autrefois aux Bretons. C'est ainsi, pour l'anecdote, que le Mont-Saint-Michel devient normand. Le territoire des comtes est alors à peu près celui de la Normandie actuelle, dont le nom veut dire « le pays des hommes du Nord ». La tâche première des comtes, devenu duc vers 1010, consiste à s'installer dans la durée en Normandie. Ils parviennent, en recourant parfois à l'aide militaire de troupes scandinaves, à se maintenir au pouvoir et à construire un état solide. Rollon et ses successeurs gouvernent comme de vrais princes, affirment leur autorité et surtout reprennent l'héritage administratif de Charlemagne. L'administration est centralisée à Rouen, mais régulièrement, des personnes mandatées par le duc se déplacent dans le reste du territoire pour rendre la justice ou vérifier que les seigneurs appliquent bien les volontés du duc. L'échiquier est mis en place. La paix et la sécurité revenus dans la région, les évêques retournent dans leur cité épiscopale et les moines dans leurs abbayes. Cet essor atteint son apogée sous Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie. Pourtant, tout commence assez difficilement pour lui. Au départ, il est surtout Guillaume le Bâtard. En effet, son père, Robert le Magnifique, n'est pas marié à sa mère, Arlette, simple lavandière au château de Falaise. Mais Robert, n'ayant pas d'enfant légitime, reconnaît Guillaume et l'élève comme son héritier. Ce qu'il devient dès l'âge de 8 ans, après la mort de son père lors de son retour de Jérusalem où il était allé en pèlerinage. Robert n'avait que 25 ans. Profitant de la jeunesse de l'héritier, nombre de barons normands se libèrent de la tutelle ducale et mènent leur propre guerre. La Normandie se couvre de châteaux, souvent de simples mottes ou des enceintes de terre. Guillaume se décide à réagir quand un complot de barons vise à l'assassiner à la veille de ses 20 ans. Guillaume rassemble alors ses fidèles, obtient l'aide militaire du roi de France Henri Ier pour mater les rebelles. Vallée d'Une, au sud-est de Caen, est le lieu de rencontre entre ces derniers et l'armée ducale. Guillaume remporte ici sa première victoire. Nous sommes en 1047. À partir de ce moment, le duc reprend en main son duché. Il reconquiert ou abat les châteaux élevés par les barons pendant sa minorité. Il poursuit les derniers infidèles qui refusent de le reconnaître pour duc. Sous Guillaume, l'essor de la Normandie est lié à un événement remarquable, la conquête de l'Angleterre en 1066. La tapisserie de Bayeux nous raconte les étapes de ce succès. Le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, sans enfant, considère que Guillaume, dont il est un parent par alliance, est son héritier. Pour faire valider cela, il fait prêter serment à son aristocratie. Édouard meurt en 1066 en Angleterre, alors que Guillaume est en Normandie. Il n'a pas le temps de faire valoir son héritage que le chef de l'aristocratie anglo-saxonne, Harold, renie son serment et s'empare de la couronne. Le duc de Normandie, s'estimant floué, ose un débarquement dans le sud de l'Angleterre pour récupérer son bien. Harold vient à sa rencontre à Hastings, mais perd la bataille et meurt. La route de Londres est ouverte. Le 25 décembre 1066, Guillaume le Conquérant reçoit la couronne d'Angleterre. La puissance du duc change alors de dimension. La Normandie n'est plus une simple puissance régionale, elle s'installe pour un siècle et demi sur l'échiquier international. Ainsi, à l'époque de Guillaume, la Normandie est d'abord une des régions françaises les plus peuplées. Elle compte 700 000 à 800 000 habitants. Un tel nombre permet et exige une mise en valeur intensive des terres. Avant tout, les Normands sont donc des paysans. Les plateaux normands sont couverts de cultures céréalières, froment, avoine, orge, et des forêts et des landes sont défrichées pour ouvrir de nouvelles terres à la culture. Des villages et des hameaux naissent au milieu de clairières ou à l'orée des bois. Les seigneurs construisent des moulins à eau auprès des rivières et augmentent ainsi la productivité de leur domaine. Ils s'enrichissent et deviennent très puissants. Fervents chrétiens, à l'image de leur duc qui fait bâtir les abbayes de Caen et aide à la reconstruction des grandes abbayes de Jumièges ou de Fécamp, ces seigneurs dotent les villages de leurs fiefs d'églises. La Normandie se couvre alors de clochers, et c'est à cette période que naît l'église de Virville.
Pour mieux la connaître, l'admirer et la comprendre, faites quelques pas pour vous tenir face au côté nord, c'est-à-dire à gauche de l'église quand on est face à l'entrée. Des explications sur l'histoire et l'architecture de l'église vous y attendent, en piste 2.